Alphonse Daudet, Arthur. Il y a quelques années, j'habitais un petit pavillon aux Champs-Élysées, dans le passage des 12 maisons. Figurez-vous un coin de faubourg perdu, niché au milieu des grandes avenues aristocratiques, si froides, si tranquilles, qu'il semble qu'on n'y passe qu'en voiture. Je ne sais quel caprice de propriétaire, quelle manie d'avare ou de vieux, laissait traîner ainsi, au cœur de ce beau quartier, ces terrains vagues, ces petits jardins moisis, ces maisons basses bâties de travers avec l'escalier en dehors, et ces terrasses de bois pleines de linge étendu, de cages à lapins, de chats maigres, de corbeaux apprivoisés. Il y avait là des ménages d'ouvriers, de petits rentiers, quelques artistes, on en trouve partout là où il reste des arbres, et enfin deux ou trois garnis d'aspect sordide, comme encrassés par des générations de misère. Et tout autour de cette splendeur et du bruit des Champs-Élysées, un roulement continu, un cliquetis de harnais et de pas fringants, les portes cochères lourdement refermées, les calèches ébranlant les porches, des pianos étouffés, des violons de malhabiles, un horizon de grands hôtels muets, aux angles arrondis, avec leurs vitrines nuancées par des seaux de soie de si clair, et leur haute glace sans teint qui montre les candélabres dorés et les fleurs rares des jardinières. Cette ruelle noire des 12 maisons, éclairé seulement d'un réverbère au bout, était comme la coulisse du beau décor environnant. Tout ce qu'il y avait de paillon dans le luxe venait se réfugier là. Galons de livrée, maillots de clown, toute une bohème de palefreniers anglais, d'écuyers de cirque. Les jeunes de pension de l'hippodrome, avec leurs poneys jumeaux et leurs affiches réclames, la voiture, les chèvres, les guignols, les marchands de l'oubli, et puis les tas d'aveugles qui venaient là le soir chargés de pliants, d'accordéons, de sébiles. À ces aveugles se maria pendant que j'habitais le passage. Cela nous valut toute la nuit un concert fantastique de clarinettes, de hautbois, d'orgues, d'accordéons, où l'on voyait très bien défiler tous les ponts de Paris avec leurs psalmodies différentes. À l'ordinaire, cependant, le passage était assez tranquille. Ces enfants de la rue ne montrait qu'à la brume, et si là. Il n'y avait de tapage vraiment que le samedi, lorsqu'Arthur cherchait sa paye. C'était mon voisin, cet Arthur. Un petit mur allongé d'un treillage séparait seul mon pavillon du garni qu'il habitait avec sa femme. Aussi, bien malgré moi, sa vie se trouvait-elle mêlée à la mienne. Et tous les samedis, j'entendais, sans en rien perdre, l'horrible drame si parisien qui se jouait dans ce ménage d'ouvriers. Oh, cela commençait toujours de la même façon. Sa femme préparait le dîner, les enfants tournaient autour d'elle, elle leur parlait doucement, s'affairant. 7 heures, 8 heures, Personne. Et à mesure que le temps passait, sa voix changeait et roulait des larmes, elle devenait nerveuse. Mes enfants avaient faim, sommeil, commençaient à grogner. L'homme n'arrivait toujours pas. Alors on mangeait sans lui. Puis la marimari couchée, le poulailler endormi, elle venait sur le balcon en bois et j'entendais elle dire tout bas en sanglotant: Oh, quelle canaille! Quelle canaille! Des voisins qui rentraient la trouvaient là. On la plaignait. Mais allez donc vous coucher, Madame Arthur. Vous savez bien qu'il n'en aura pas puisque c'est le jour des payes. Et des conseils, et des commérages. À votre place, voilà comment je ferais. Pourquoi ne voyez-vous pas son patron? Tout cet apitoiement faisait pleurer davantage. Mais elle me paraissait. Elle persistait dans son espoir, dans son attente, s'y énervait. Et les portes fermées, le passage muet, se croyant bien seule, elle restait accoudée là, ramassée, toute dans une idée fixe, en racontant à elle-même des hauts, ses faiblesses avec ce laisser-aller. La peine qui toujours fait la moitié de la vie dans la rue. C'était des loyers en retard, des fournisseurs qui la tourmentaient, et le boulanger qui refusait le pain. Mais comment ferait-elle s'il rentrait encore sans argent? Ah, la lassitude la prenait de guetter les pas attardés, de compter les heures. Elle rentrait, mais longtemps après, quand je croyais tout fini, on toussait près de moi sur la galerie. Elle était encore là, la malheureuse, ranimée par l'inquiétude et se tuant les yeux à regarder dans cette ruelle noire et n'y voyant rien que sa détresse. Vers 1 heure ou 2 heures, quelquefois plus tard, on chantait au bout de la ruelle. C'était Arthur qui rentrait le plus souvent, se faisant accompagner par un camarade jusqu'à sa porte. Viens donc, viens donc. Et même, j'aurais encore de ne pouvoir décider à rentrer, sachant bien que là ce qu'il attendait chez lui, en montant l'escalier. Silence de la maison, endormi, qu'il renvoyait son pas lourd, gelait, le gelait comme un remords. Il parlait seul, tout haut, et s'arrêtant devant chaque taudis. Bonsoir, Madame Weber, bonsoir, Madame Mathieu. Et si on ne lui répondait pas, c'était une bordée d'injures jusqu'au moment où toutes les portes, toutes les fenêtres s'ouvraient pour lui renvoyer ses malédictions. C'est ce qu'il demandait. Son vin aimait le train, les querelles. Et puis comme cela, il s'échauffait, il arrivait en colère. Et son entrée lui faisait moins mal. Elle était terrible, cette rentrée. Oui, c'est moi. J'entendais les pieds nus de la femme sur le carreau, lentement, le flottement des allumettes, et l'homme qui disait dans son entrée et essayait de bégayer une histoire toujours la même. Les camarades, l'entraînement, chose, tu sais bien, chose qui travaille au chemin de fer. La femme ne l'écoutait pas. Et l'argent? Ben, j'en ai plus, disait la voix d'Arthur. Mais tu mens. Il mentait en effet, mais dans l'entraînement du vin, il recevait, il réservait toujours quelques sous, pensant à la soif du lendemain. Et c'est ce restant de paye qu'il essayait de lui arracher. Arthur se débattait. Puisque je lui ai dit que j'ai tout bu, chantait-il. Sans répondre, elle s'accrochait à lui de toute son indignation, de tous ses sens, le secouait, le fouillait, retournait toutes ses poches. Et au bout d'un moment, j'entendais l'argent qui tombait par terre et la femme qui se jetait dessus avec un air de triomphe. Ah, tu vois bien. Puis un juron, des coups sourds. C'est l'ivrogne qui se vengeait. Eh bien, en train de la battre, il ne s'arrêtait pas. Tout ce qu'il y a de mauvais conducteur et destructeur, surtout dans ces œuvres vins de barrière, lui montait au cerveau et il lui sortit. La femme hurlait, les derniers meubles du bouge volaient en éclats, les enfants réveillés en sursaut pleuraient de peur. Dans le passage, les fenêtres s'ouvraient, on disait « Oh, c'est Arthur, c'est Arthur !» Quelquefois aussi, le beau-père, un vieux chiffonnier, qui logeait dans une voisine, vint au secours de sa fille. Mais Arthur s'énervait et il s'enfermait à clef pour ne pas être dérangé dans son opération. Alors, à travers la serrure, un dialogue effrayant s'engageait entre le beau-père et le gendre. Et nous en surprenions de belles. T'as donc pas accepté 10 ans de prison? Bandit, disait le vieux, et l'ivrogne d'un ton superbe. Eh ben oui, j'ai fait 2 ans de prison, et après, j'ai payé ma dette, moi, à la société. Tâche donc de payer la tienne, toi aussi. Cela paraissait tout simple. J'ai volé, vous m'avez mis en prison, nous sommes. Mais tout de même, si le vieux insistait trop, là-dessus, Arthur ouvrait sa porte, tombait sur son beau-père de la belle manière, et les voisins et tout le monde, comme Polichinelle. Ce n'était pourtant pas un méchant homme. Bien souvent, le dimanche, le lendemain d'une de ces tueries, l'ivrogne, sans le sou pour aller boire, passait la journée chez lui. On sortait alors des chaises des chambres, on s'installait sur le balcon, Madame Weber, Madame Mathieu, tout le garni. Et on causait. Arthur faisait l'aimable, le bel esprit. Et on aurait dit un de ces ouvriers modèles qui suivent les cours du soir. Il prenait alors, par une voix blanche, douloureuse, il venait des bouts d'idées, il les ramassait un peu partout, sur les droits des ouvriers, la tyrannie du capital. Et sa pauvre femme, amoindrie et attendrie par les coups de la veille, le regardait avec admiration. Et ce n'était pas la seule, cet Arthur pourtant, s'il voulait, murmura Mme Weber en soupirant. Toutes ces dames le faisaient chanter. Alors il chantait les hirondelles de M. Béranger. Oh, cette voix de gorge, pleine de fausses larmes, sentimentalisme bête de l'ouvrier. Sous la véranda moisie, au papier goudronné, les guenilles étendues laissaient passer un coin de ciel bleu. Et écoutez, toute cette crapule, alarmée, affamée d'idéal, à sa manière, roulait là-haut des yeux mouillés. Et tout cela n'empêchait pas que le samedi suivant, Arthur mangeait et battait sa femme, et qu'il y avait là, dans ce bouge, un tas d'autres petits. Oh, cette voix de gorge pleine de fausses larmes, sentimentalisme bête de l'ouvrier. Sous la véranda moisie, au papier goudronné, les guenilles étendues laissaient passer un coin de ciel bleu. Entre les cordes et toute cette crapule affamée d'idéal, à sa manière, formait là-haut, tout cela n'empêchait pas que le samedi suivant, Arthur mangeait sa paye, battait sa femme, et qu'il y avait là, dans ce bouge, un tas d'autres petits Arthurs, n'attendant que d'avoir l'âge de leur père, pour manger leur paye et battre leur femme. Et c'est cette race-là qui voudrait gouverner le monde. Maladie, comme disaient mes voisins de passage.